Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. On l'a tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière.
Ok.
Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Aujourd'hui, à bord de Persévérance, nous arrivons dans l'archipel des Baleinies, des îles situées dans l'océan Austral au nord-ouest de la mer de Ross. Nous sommes donc ressortis de cette mer de Ross après y avoir séjourné 3 bonnes semaines, qui ont fait l'objet des chroniques précédentes. Yves, notre biologiste ornithologue, nous avait déjà parlé des colonies de manchots. Il va maintenant nous décrire plus globalement toute la faune marine qu'il a pu observer en mer de Ross. Yves, qu'est-ce qu'on a vu depuis notre dernière interview à Cap Crozier ?
Eh bien depuis, on a parcouru quelques milles, et notamment autour de cette fameuse île de Ross, où se trouve en effet cette grosse colonie de manchots Adélie, hein, dont on a évoqué la fois d'avant. Cette manchotière est l'une des plus importantes dans la mer de Ross, mais aussi au niveau mondial. Et sur cette même île, il existe d'autres colonies également, Cap Royd, Cap Bird, etc. D'autres colonies de manchots Adélie. Et donc autour de cette île, on a pu également apercevoir quelques mammifères marins, notamment des rorquals, petits rorquals, petites baleines de milk. Chez les baleines, avant tout, on a deux grosses familles principales, les baleines à fanon et puis les baleines à dents. Et donc là, en l'occurrence, le petit rorqual, c'est une baleine à fanon. Donc quelques individus, par groupe ou solitaire. On a eu la chance d'en voir relativement proche. Baleine de mink. Et puis un peu en remontant, on a eu la chance de croiser à plusieurs reprises des groupes d'orques. C'est impressionnant, notamment à plusieurs fois des groupes de 20 individus là, majoritairement composé de femelles, accompagnés avec des jeunes, et également 2-3 mâles. La différence entre le mâle et la femelle, là, c'est l'aileron dorsal. Il est impressionnant chez le mâle, il peut atteindre 2 mètres de longueur. Quand on le voit à distance, là, ça frappe toujours dans ces groupes. Voilà, de belles observations de mammifères marins.
À propos des orques, donc les orques, ce sont des baleines à dents, c'est le prédateur majeur. Et les troupeaux d'orques ont des stratégies de chasse très particulières et très caractéristiques de la région où ils sont, hein, c'est bien ça.
Ici, étant donné les colonies importantes de manches d'Adélie, il est fort probable que ce soit leur mets préféré. Mais je pense également clairement que, étant donné la présence de phoques, je pense que les jeunes phoques, voire les jeunes adultes, peuvent passer aussi à la moulinette pour les orques du coin. Mais c'est clair qu'ailleurs, on connaît très bien, en effet, les méthodes de chasse. Hein. On a cette image de ces orques qui peuvent bitcher, qui peuvent aller chercher justement ces manchots ou les jeunes otaries, jeunes éléphants de mer par endroit, sur certaines îles subantarctiques notamment.
Bitcher, ça veut dire qu'ils viennent s'échouer sur la plage pour croquer du manchot, c'est ça ?
Ouais, c'est exactement ça, c'est impressionnant de voir ce gros bestiau-là réussir à sortir d'eau, à s'extirper de son milieu marin, de se mettre quasi au sec sur la plage, sur les galets, pour aller croquer les petits manchots, c'est un truc impressionnant.
Et j'ai entendu dire, il y a une autre technique quand ils chassent les phoques qui sont posés sur des glaçons.
C'est une autre technique de chasse. Parfois qu'on a l'habitude de se prélasser, se reposer, passer du temps sur des petits bouts de glaçon, des plaques de glace. Et les orques arrivent à les bouger, à les remuer ces plaques, quitte à les casser également, de manière à que le phoque tombe à l'eau, qu'il se fasse croquer juste à la suite.
Et on a vu aussi quelques baleines à bosse. Hein. C'est magnifique quand elles bondissent hors de l'eau, on dirait qu'elles dansent. Hein.
Les baleines à bosse également, la particularité, c'est qu'on a la chance de les observer d'assez proche. On peut également observer ce fameux moment où, suite à quelques souffles en surface, eh bien, elles vont plonger pour s'alimenter et autres. moment-là, on aperçoit un bref instant, la fameuse nageoire caudale qui va se découvrir la face inférieure. Et en se découvrant, eh bien, on voit cette face qui est souvent tachetée, marquée de différentes marques, également de diatomées dans le coin ici. Et cette face inférieure, c'est un peu sa carte d'identité, c'est un peu sa marque personnelle, c'est-à-dire que chaque baleine a des motifs différents, une caudale différente. Et jamais le photographe est assez agile et rapide. Il est possible de mettre en relation ces photos de plusieurs nageoires caudales et puis d'identifier l'individu en question. Et il se trouve que là, ces derniers jours, on a pu observer une baleine d'assez proche, on l'a prise en photo et j'ai retrouvé sur Internet, sur un site en particulier, l'individu en question. Il se trouve qu'elle a été vue en 2013 et 2014 en Australie, l'été, en mois d'août. Et donc ça, c'est connu, hein, la migration des baleines. Hein, on sait que l'été austral, elles sont autour de l'Antarctique. Et en revanche, l'hiver austral, elle remonte un peu dans les eaux plus chaudes, pour mettre bas, notamment. Et donc voilà, c'est une migration classique.
On identifie, j'irais pas dire qu'on flique les baleines, mais enfin, on les identifie vraiment, quoi. À 13 ans d'intervalle, on arrive à tracer un individu, c'est assez hallucinant. Les baleines ont une particularité, c'est qu'elles chantent sous l'eau, et c'est un langage, c'est un moyen de communication, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça, chez les mâles notamment, c'est des chants qui permettent de se reproduire, d'engager la période de reproduction, de charmer aussi les femelles, donc ça c'est des chants qu'on pourrait écouter ultérieurement.
Alors justement, pour écouter ces chants de baleines, on a à bord un instrument, le manta, que l'on remorque derrière le bateau. C'est une espèce de torpille avec des ailerons, équipée de microphones sous-marins, qu'on appelle les hydrophones, qui enregistrent en continu les bruits sous-marins. Alors il faut savoir que les sons se propagent sous l'eau à une vitesse de 1500 mètres par seconde, donc environ 4 fois plus vite que dans l'air. Et la propagation des sons est d'autant meilleure que ces sons sont plus graves. Du coup, on peut vraiment entendre des bruits issus de sources très éloignées. Par exemple, pour le grand rorqual, qu'on appelle aussi la baleine bleue, qui est la plus grande des baleines, le mâle peut faire entendre à plus de 1000 km de distance son chant de séduction en période de reproduction. Alors c'est un chant très grave, vers 50 Hz. Et les spécialistes bioacousticiens ont pu identifier que chaque espèce de baleine avait un chant spécifique, avec peut-être même une signature individuelle pour la baleine bleue. Les baleines à fanons, telles que les rorquals et les baleines à bosse, peuvent émettre des sons très graves, donc de très grande portée, alors que les baleines à dents, les odontocètes, telles que les orques, les cachalots ou les dauphins, émettent des sons plus aigus, souvent des clics, qui leur servent à se positionner sous l'eau par réflexion du signal, un peu comme pour les sonars et les sondeurs acoustiques qu'on a sur nos navires. C'est pour compléter leur base de données en région polaire que les bioacousticiens de l'université de Toulon nous ont donc confié cet instrument, le manta. Et ben voilà ce que nous avons pu capter. Vous allez entendre d'abord un chant de baleine à bosse et puis après des clics d'orques. Bon, et maintenant, à propos des phoques, qu'est-ce qu'on a vu comme phoques ?
Dans l'ensemble, on voit beaucoup de phoques de Weddell. Alors, c'est des phoques qui peuvent faire jusqu'à 500, voire plus 500, 550 kilos. Ils font 2,50 m, 3 m de longueur. Donc le phoque de Wedel, il a une robe assez jolie, hein, en fait. Le dessous, il est tacheté de blanc, tacheté de taches claires, là. Et lui, passe beaucoup son temps aussi sur les plaques de glace et sur les plages. À l'inverse du phoque crabier, que l'on aperçut aussi un peu moins, pour le coup, les effectifs seraient moindres dans le secteur. Le phoque crabier, lui, à la différence du phoque de Wedel, le phoque de Wedel, il a vraiment un visage assez mignon, quoi. Il est assez rond, rondelet. Que le phoque crabier, lui, il a une tête un peu plus de chien, on va dire, avec ses museaux assez longs, tête carrée, plus ou moins. Et le phoque crabier, lui, il est plus inféodé à la glace de mer. On le voit plus souvent sur des plaques, à l'inverse de ça du phoque de Wedel. Ça peut aider à l'identifier, parce que, ouais, c'est pas facile. Un phoque sur un bout de glace, bon, faut s'en approcher pour les identifier. Ça, c'est les deux principales espèces qu'on a vues ici. Hein. Une autre espèce dont on a eu la chance de voir, puisque c'est pas la période favorable pour les observer, c'est des éléphants de mer, les fameux éléphants de mer là, qui eux se reproduisent aussi sur Terre, sur les plages, mais sur les plages plutôt des îles subantarctiques. Et on en a croisé 3-4 là, sur les plages, et notamment des jeunes mâles, alors qui peuvent faire jusqu'à, pareil, 4 mètres de long et plusieurs tonnes, 3-4 tonnes.
Bon alors, ça c'était des rots d'éléphants de mer. Ça mange quoi les phoques ?
Ça mange des poissons, des calamars, principalement des poissons, ouais, à plusieurs centaines de mètres de profondeur aussi. Les phoques, c'est assez particulier comme technique de plongée, et c'est surprenant, c'est un excellent plongeur, et notamment l'éléphant de mer qui peut descendre à plus de 1000 mètres, voire il y a des records à plus de 1500, etc. Voilà, ils peuvent rester près d'une heure sous l'eau, c'est une adaptation physiologique, physique, pour ces grandes plongées, pour s'alimenter. Ouais, c'est assez extraordinaire comme capacité d'adaptation dans ce genre de milieu.
Ouais, une apnée d'une heure et demie pour un mammifère, c'est assez impressionnant. En fait, c'est beaucoup plus que les baleines, hein, notamment l'éléphant de mer, là. Et tu disais, les phoques de Wedel, c'est mignon et tout, et il me semble qu'il y a quelques années, on a été voir de très près des phoques de Wedel dans une mission, justement, en mer de Wedel.
Exact, ouais. Ouais, en effet, à bord d'un brise-glace, on a embarqué du côté du Chili pour deux bons mois aussi, il me semble, hein, de campagne océanographique. Là, l'objectif, c'était beaucoup de mesures, beaucoup de prélèvements physico-chimiques de l'océan. Mais il y avait également un volet biologique et la capture de phoques de Wedel pour les équiper d'émetteurs. Bien, une petite balise, une petite radio satellite qu'on a placée sur 5 individus, il me semble, pour connaître avant tout leur déplacement à cette période de l'année sur la banquise. Et puis également sur ces émetteurs, il y avait également des capteurs un peu spéciaux qui enregistraient la température, salinité, et puis des informations utiles aussi également pour les océanographes.
Oui, donc ils plongeaient gratuitement pour nous, comme c'est d'excellents plongeurs. Ben, en fait, c'est des sous-marins qui emmènent nos instruments de mesure température, salinité, profond, et dans des coins où il y aurait très peu de missions océanographiques. Alors le seul truc, c'est qu'évidemment, on ne contrôle pas où ils vont où ils veulent, mais ça, c'est une indication pour les biologistes, justement, ils vont où et quand, à quelle période de l'année. Voilà. Bon, Yves, revenons donc en mer de Ross. À part les phoques de Wedel et les éléphants, il y a d'autres espèces de phoques par ici, hein ?
Deux autres espèces de phoques également observables dans la région, le léopard de mer et le phoque de Ross. Le léopard de mer, qui est la caractéristique principale d'être un grand prédateur ici pour tous ces manchots adélie et puis autres également jeunes phoques. Lui, sa technique, c'est de rôder face aux manchotières, à l'affût un peu des groupes de manchots qui viennent et qui partent de la manchotière. Également, on le voit assez souvent sortir la tête autour des plaques de glace, là où on a quelques manchots qui regardent avec un peu attention et un air un peu paniqué, cette tête qui sort de l'eau autour des plaques. Donc ouais, le père de mer, c'est un prédateur extrêmement efficace.
Oui, bah d'ailleurs, petite anecdote, une fois en Antarctique avec un Zodiac, on met le Zodiac à la plage et puis on va faire ce qu'on a à faire à terre, et quand on revient, on voit un léopard de mer qui avait attaqué l'arrière du boudin du Zodiac et qu'il avait croqué. Il avait peut-être cru que c'était bon à manger, c'était grillé, ça avait l'odeur d'humain. Et d'ailleurs, il y a eu des accidents avec des humains, des accidents mortels, hein, avec des phoques léopards.
Oui, il y a eu notamment en péninsule Antarctique, il y a eu des accidents, parfois avec des plongeurs hein, qui volent évidemment sous l'eau. Parfois, le léopard de mer peut attaquer. Bon, c'est pas systématique, mais il faut s'en méfier. Et puis, même jusqu'à quand la personne remonte dans le Zodiac, là, il peut arriver que le léopard de mer n'est pas loin derrière et puisse croquer. Ouais.
Et d'ailleurs, tiens, juste pendant qu'on discute, on vient d'en croiser deux, des léopards.
On est au mouillage, il est 21h passé, on est au bord de Young Island, dernière île au nord de l'archipel de Baleine, et à l'instant là on vient de croiser un léopard de mer, enfin pas un mais deux, assez impressionnant, il était là, sur sa petite plaque de glace, et le bateau est passé juste à côté, on a vu sa gueule, c'est le mot, c'est vraiment une tête caractéristique, forte, c'est un animal puissant et impressionnant, et il se trouve qu'il y en a un deuxième, un peu plus loin. Ouais, c'est des observations assez remarquables, assez inédites et un grand moment.
Merci Yves pour nous avoir commenté toutes ces belles observations. Et donc à bientôt pour la suite des aventures dans l'archipel des baleines, chers auditeurs. Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant l'air. Voilà, tout devant l'air. Tout à fait, on l'a tout devant l'air. Ok.
Ah, là, j'ai l'air de...
Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça?
Ouais.